à partir de 9h10 TU.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots, une danse des mots littéraire aujourd'hui. On sait que c'est, comme on dit, la rentrée littéraire et qu'au mois de septembre, il y a des dizaines, peut-être même plus, des centaines de romans qui sortent. L'un de ceux qui font le plus parler de lui, c'est celui de Jérôme Ferrari, À son image, qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Actes Sud et qui est un roman structuré avec beaucoup de soin, me semble-t-il, qui mêle plusieurs interrogations sur le péché et en même temps sur la représentation, sur l'invention du réel par la photographie, avec ce titre qui est donc à la croisée un petit peu de ces deux chemins, puisque ça s'appelle « À son image », ce qui fait référence bien sûr à la phrase bien connue « Dieu a créé l'homme à son image », et en même temps qui fait référence à l'image reproduisant le monde, l'image photographique. Jérôme Ferrari est là pour me contredire si jamais je n'ai dit que des bêtises depuis cette quinzaine de secondes. Bonjour Jérôme Ferrari, merci bien de venir nous parler de votre livre qui m'a paru être un livre sur les contradictions, sur l'incompréhension, sur la difficulté qu'on a à comprendre quelque chose et le fait que quand on croit comprendre, bah, on comprend pas très bien, avec un certain nombre de personnages dont l'identité m'a laissé un petit peu perplexe. La plupart de vos personnages ont des prénoms avec un patronyme qui est une initiale, simplement. On a Pascal B, on a Antonia pendant les 4 premiers cinquièmes du roman et tout d'un coup c'est Antonia V. On ne sait pas pourquoi on lui donne cette identité qui en fait n'en est pas une. Ça m'a beaucoup surpris parce que en général, quand on met une initiale, c'est pour cacher l'identité de la personne. Et ça, justement, ça fait réfléchir le lecteur qui se dit s'il y a une initiale avec un point, c'est à la fois pour cacher l'identité, mais pour faire croire que cette identité est réelle. Est-ce que vous avez joué justement avec ce jeu des initiales sur cet aller-retour entre le fictif et le réel ?
Absolument. Je peux pas prétendre ici que je suis formulé avec autant de clarté que vous venez de le faire, mais plus confusément, oui. Et notamment parce que dans le roman, il y a effectivement des personnages totalement fictifs et des personnages qui sont inspirés
ou qui sont soit réels. Des photographes, soit des personnages de l'actualité, parce qu'on voit Pascal B, on voit Samuel T, je sais pas qui, etc. Et tout à coup on voit Guy O qui a été assassiné, ses assassins se font tuer dans leur prison. On se dit mais c'est quoi, c'est Orsoni ça.
C'est Orsoni bien
et
sûr.
Orsoni ouais. C'est pas un personnage fictif, un vrai.
Tous les personnages, alors tous ceux qui viennent de l'actualité et d'histoire du mouvement nationaliste ou plus largement de l'histoire de l'Europe sont des personnages réels et le jeu consiste un peu à les mettre au même plan hein et en même temps moi je les deux personnages réels avec lesquels je passe le plus de temps dans le roman ce sont deux photographes qui sont désignés par Gaston C et Rista M et dont les modèles sont Gaston Chiro et Rista Marjanovic et voilà, cette initiale m'a permis de prendre des libertés que j'aurais pas prises s'il y avait leur vrai nom. C'est que je me permets de leur prêter des pensées, de leur supposer des projets, des regrets. Et évidemment, j'ai pas la moindre idée de ce qu'ont pu penser Gaston Chéreau et Rista Marjanovic pendant leur activité.
Mais d'enlever donc de réduire leur patronyme à son initiale vous permet de les considérer comme presque des fictions que vous pourrez faire penser.
Je pense que j'ai employé le terme des contreparties, voilà, des contreparties fictives sur lesquelles je peux avoir plus de pouvoir. Dans mon roman précédent où je parlais de Heisenberg, j'ai pas prêté à Heisenberg la moindre pensée qui était la mienne.
Parce que vous pensiez que ça aurait été irrespectueux.
J'en fais pas une l'étable de la loi, hein, et je comprends bien que des romanciers s'affranchissent de ça, mais moi, quand quelqu'un a vécu une vie réelle d'homme, elle est à lui, elle n'est pas à moi. Et donc, soit je peux me la regarder de l'extérieur en livrant les réflexions que ça m'inspire, ce que j'ai fait avec Heisenberg, soit il faut que je fasse un petit décalage fictif. Et la raison pour laquelle Antonia est
alors,
privée...
Alors, je voulais justement vous poser la question. Pourquoi elle a un V, page, je sais pas, 200, alors que votre roman en fait 220?
C'était une question de structure, parce que pour moi, il y a trois chapitres qui relatent trois aventures du photoreportage de guerre. Les deux premiers sont donc Gaston Chéreau, Gaston C, le deuxième Rista Marjanovic, Rista M, et au moment où Antonia rentre là-dedans, elle est elle aussi comme eux désignée par une initiale. Et je pense que je la traite dans ce chapitre-là avec un semblant d'objectivité un peu qui est un peu moins d'intimité que dans les autres chapitres.
Oui, donc ça lui donne un statut particulier.
Voilà. Et puis ça donne un statut particulier. J'essaye de faire en sorte que ça donne un statut particulier au chapitre, qu'on voit qu'il s'inscrit dans la lignée des deux autres qui sont sur l'histoire du photoreportage.
Alors, il m'a semblé que le roman était structuré avec beaucoup de soin, ne serait-ce que, par exemple, parce que vos chapitres, non seulement ils sont titrés, mais ils sont doublement titrés. Ils sont titrés avec une référence au rituel catholique, la plupart du temps à la messe de Requiem, puisque ça commence par là, puisque votre Antonia, on va pas tout raconter, mais cette jeune journaliste se tue en voiture.
Oui, c'est à la page 2, hein, donc, oui, ça, donc on peut, ça va, on peut le dire. Peut le dire
donc, ouais. Elle se tue en voiture parce qu'elle prend sa voiture après une nuit de discussion et qu'elle est fatiguée, et que c'est son oncle qui est en même temps son parrain qui on demande de faire la messe. Ce par rapport à quoi il est extrêmement récalcitrant et puis il finit par accepter. Donc on a un certain nombre de chapitres qui suivent le rituel de cette messe et en dessous on a un titre de photo et là encore il y a un certain nombre de photos existantes, ouais, qu'on ne voit pas, qui ne sont pas reproduites, mais vous dites vous-même dans une sorte de post-scriptum que les photos existent, et puis d'autres photos qui n'existent pas puisque ce sont celles qu'aurait prises votre héroïne Antonia.
Exactement. Alors là, bon, pour entrer un peu dans la cuisine de fabrication, mon projet initial c'était simplement que de suivre le rituel de la messe. Et ce que j'avais au début, c'était les titres de chapitres qui correspondent aux différents moments de ce rituel. Puis après, comme il est question de photos tout le temps et qu'il y a souvent une photo qui me semble être constamment à l'horizon du chapitre, j'ai rajouté une espèce de légende, ce qui me convenait bien parce qu'en même temps ce double titre il correspond aussi au double sens du titre à son image, hein, renvoyant d'un côté au rituel catholique et de l'autre à la photo.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne mettre la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant. Quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance.
Si la photo est bonne, c'est Barbara qui nous le dit ou qui nous le chante. Bah, c'est un bon contrepoint pour ce roman Jérôme Ferrari dont vous êtes venu nous parler, parce que qu'est-ce que c'est justement qu'une bonne photo? Je vous propose que vous nous lisiez un extrait de votre roman vers le début où justement Antonia, la toute jeune Antonia à qui son parrain a offert un appareil de photo, prend sa première photo réussie.
Elle observa longuement le groupe à travers le viseur, soigna sa mise au point et attendit qu'un serveur important qui traversait la rue eût disparu à l'intérieur du bar. Au moment où elle déclenchait, des passants qu'elle n'avait pas vus arriver surgirent dans le cadre par la gauche. C'est un couple de touristes, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, accompagnés de leurs deux enfants. Ils se dirigeaient vers la plage, pieds nus et seulement vêtus de maillot de bain, leurs serviettes jetées sur les épaules, inconscients d'avoir ruiné, par la désinvolture impardonnable de leur intrusion, la méticuleuse composition d'Antonia. Au moment du développement, Antonia découvrit avec stupeur que la photo était parfaite, et apprit ainsi qu'elle ne devait jamais désespérer de la prodigalité du hasard. On y voit les garçons lever la tête tous ensemble, avec une moue de réprobation et de dégoût vers la gauche du cadre où viennent d'apparaître les touristes insouciants, qui s'avancent sous l'enseigne du bar. Pascal B. s'est tourné lui aussi vers eux, mais son regard exprime bien davantage que de la réprobation ou du dégoût. Ils poursuivent leur chemin en souriant, comme si le monde extraordinairement hostile qui les entoure n'existait pas. Il est impossible de décider si leur aveuglement relève de l'innocence ou du mépris. La photo ne montre pas, bien qu'elle en laisse évidemment entrevoir la possibilité, qu'une seconde plus tard, en se retournant brusquement vers sa femme, l'homme bouscula Pascal B., qui renversa son café et considéra un instant avec un air de stupeur incrédule les taches brunes maculant son bel ensemble blanc. Le coupable ouvrit la bouche, peut-être pour présenter des excuses inutiles, mais Pascal B. ne lui laissa pas le temps de parler et lui balança un coup de tête. Le touriste porta les mains à son nez et tomba à genoux sur le trottoir.
Merci beaucoup, Jérôme Ferrari. Alors, ça, ce n'est pas une photo, c'est une scène que vous venez de nous lire, qui nous fait découvrir justement que la bonne photo, c'est le résultat, en tout cas dans ce cas-là, tout à la fois de la préméditation et de l'accident.
Et du hasard. Et alors du hasard, là, ouais. elle est pas très contente d'elle, parce que c'est tout autre chose que de saisir. Là, c'est une photo qui est prise par pur hasard, puisqu'elle veut prendre les groupes de ses amis du village qui sont très très bien habillée pour le en été 79, elle a 15 ans, et puis elle voit pas arriver ces deux touristes, et là c'est un coup de chance extraordinaire, puisqu'elle prend une photo qui d'un coup raconte une histoire.
Une histoire qui est sur le point d'advenir.
Même avant que ça advienne, la photo telle que je l'imaginais, c'est simplement un groupe de jeunes gens qui regardent des gens en maillot de bain passer devant eux avec un air un peu dégoûté. C'est mettons l'histoire d'un petit choc culturel, comme j'en ai vu beaucoup quand j'avais moi-même 13 ou 14 ans à Propriano.
Alors c'est à la fois l'histoire d'une mise en scène et d'une mise en scène qui est bousculée par quelque chose qu'on n'attendait pas.
Voilà.
Et vous le dites vous-même dans votre livre, la photo, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps, mais elle le fixe. La mise en scène du roman, c'est presque le contraire, c'est-à-dire qu'un roman, c'est dans la continuité. Un roman, ça se passe dans le temps. Vous avez travaillé, vous aussi, la mise en scène de votre roman. Est-ce qu'il y a quelle différence entre justement la mise en scène d'un roman et la mise en scène d'une photo?
Alors la citation n'est pas de moi, elle est de Mathieu Riboulet, hein, sur la photo qui ne suspend pas le temps, mais qui le fixe.
Elle est d'une
justesse absolument. Absolument formidable. Un roman, est-ce que c'est une mise en scène? Bon, d'abord, je pense qu'il y a un nombre incalculable de manières de travailler un roman, donc je parle de la mienne. Moi, je suis plutôt très très structuré. Et en fait, le temps que je passe à l'élaboration de l'agencement de ce qui sera l'architecture du roman est bien plus long que celui que je consacre à l'écriture. Je peux pas, et je l'ai jamais fait, je pense pas que je le ferai jamais, me lancer comme ça dans l'écriture en voyant comment une phrase en amène une autre, et je sais que je ne pourrais pas faire ça,
Vous voulez dire par là que le temps de préparation du roman a été plus long que le temps de l'écriture?
Ah oui, bien surtout pour celui-là, bien plus long, et comme en plus pour celui-là, l'écriture a connu de nombreux ratés assez désespérants pendant des mois, ça a fait quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé.
Comment est-ce que vous travaillez justement cette préméditation, cette pré-écriture? Est-ce que la pré-écriture passe par l'écrit ou c'est tout dans votre tête?
Non, c'est dans ma tête.
Vous avez des fiches?
Non, j'ai pas de fiches du tout. J'ai jamais été assez organisé pour avoir des fiches. J'ai essayé d'en faire même quand j'étais au lycée, j'y arrivais pas. C'est pas maintenant que je vais commencer. C'est une question d'agencement. Je parle même pas du temps qui est consacré aux documentations nécessaires, etc. C'était pas celui-là.
Oui, c'est de la structure, c'est le plan.
D'abord, je pense qu'il faut le temps que pour moi les différents personnages acquièrent une épaisseur charnelle. Ça, c'est du temps de rêverie, ça. Hein. C'est du temps de fantasmagorie presque. Hein. Et puis après, il faut, comme de toute façon, il y a toujours plusieurs fils narratifs dans ce que j'écris. Il faut que j'arrive à voir comment je peux les agencer les uns avec les autres. Et donc j'ai une structure avec des points fixes, et puis après, bien sûr, il y a des surprises qui arrivent, et heureusement que l'écriture n'est pas simplement la réalisation d'un plan préétabli, mais qu'elle a une fécondité propre au moment où on arrive. Mais par contre, je sais par où ça ouais. passe.
Et quand on lit votre roman, Jérôme Ferrari, très souvent on a l'impression qu'il y a deux lignes qui se croisent. Pour le plan de votre roman dont on vient de parler, on a l'impression justement que d'abord, il y a une progression dans le rituel de la messe qui va indiquer tous les titrages des chapitres, et ça reste dans la programmation rituelle d'une certaine façon. Et en même temps, dans ce que vous racontez, ça va, comme dit Montaigne, à saut et à gambade, c'est-à-dire que il y a de très nombreux rétro-pédalages, vous revenez en arrière, vous repartez, etc. Ce qui fait que on a l'impression que se croisent deux lignes qui sont complètement contradictoires l'une avec l'autre.
Et qui j'espère s'organise entre elles de par la temporalité qui est celle du roman, parce que même quand je pars à Sceaux et à gambade, c'est une expression de Montaigne que j'aime beaucoup, j'essaye de faire en sorte que la logique narrative apporte une forme de cohésion au chapitre. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis, parce que dans le roman, les titres des chapitres suivent les parties du Absolument. Rituel. Mais chaque contenu de chapitre, quelle que soit l'époque à laquelle il se passe, il a un rapport intime avec le moment du rituel et ce qui s'y dit. Et notamment avec les paroles de la liturgie des différents chants. Et j'espère que si ça marche, si ça prend, ça doit être parce que c'est la structure qui donne une forme de cohésion.
Una dada je per voi di lagrime d'inverno tu reghi ben inverno e di luce che piglie fine così tembre dolce confine una tana c'è per voi di sane impeurite di gandia non tuide o mintane frastone
le groupe A Fillette qu'on vient d'entendre, je sais pas si j'ai bien prononcé, je crois pas.
Allez-y.
Ah bon. Un groupe qu'on a déjà entendu dans la danse des mots, qu'on a déjà entendu d'ailleurs avec vous, Jérôme Ferrari, puisque Jean-Claude Acquaviva, qui en est l'un des inspirateurs, et vous-même, vous aviez participé à l'une des émissions qui était consacrée à la culture portée par la langue corse. Et je vous avais interrogé là en tant que traducteur, puisque vous êtes philosophe de métier, traducteur assez fréquemment et en même temps romancier. Alors, vous parlez de beaucoup de choses dans ce roman, et très souvent, j'ai eu l'impression que c'était pas vraiment un roman de l'absurde, mais un roman qui faisait bouger nos certitudes, d'une certaine façon. Par exemple, vous citez ce passage très connu de l'Évangile, où Jésus va ressusciter Lazare, et Jésus pleure. Et tout le monde se demande, dans votre roman, pourquoi Jésus pleure-t-il alors qu'en fait il va ressusciter Lazare ?
Ah, moi, c'est une scène des évangiles qui m'a toujours beaucoup touché, hein. Et les gens autour de lui le voient pleurer, disent regardez comme il l'aimait. Bon, et il y a quelque chose de profondément incompréhensible a priori, hein, parce que s'il y a la seule personne qui a pas de raison de pleurer, c'est lui. Et une interprétation qui m'attire par ça sans doute plus par sa vertu esthétique que par sa précision théologique, c'est que la contradiction ne doit pas être levée, et que même la promesse de la résurrection ne rend pas la mort moins triste, hein, ou les défunts moins dignes d'être pleurés.
Et que d'une certaine façon, si on feint de comprendre, on passe à côté de ce qui vous est proposé.
Je pense. C'est quelque chose qui m'avait... Il y a un passage du dialogue des Carmélites qui m'a... Un très très court passage, hein, où une mère supérieure...
C'est la mort de la mère supérieure.
Non, c'est quand...
C'est extraordinaire aussi.
La mort de la mère supérieure, c'est exactement ça, puisque la mère supérieure a cette mort lâche où elle dit...
Mais oui, c'est-à-dire que la mort, enfin dans le texte de Bernanos, la mère supérieure qui est en train de mourir contredit tout ce qui a été apparemment sa vie, alors que la petite qui monte à l'échafaud et qui a toujours peur de tout, il monte en chantant parce que justement les choses s'inversent.
C'est ça, comme si elle avait échangé sa mort. Non, c'est la nouvelle mère supérieure qui est désignée après celle-ci, qui réprimande une religieuse qui a dit à une autre en disant mais il va nous arriver malheur. Et l'autre religieuse la reprend en disant nous sommes croyantes, on ne parle pas de la mort comme un malheur. Et la mère supérieure la reprend, elle disait mais taisez-vous, nous serons bien avancés quand nous aurons appelé bon ce que tout le monde appelle mal. Et voilà. Et ça, c'est l'intelligence de Bernanos, mais de montrer que même la croyance ou l'espérance ne doivent pas gommer l'aspect tragique de la mort.
Mais justement, vous mettez très en avant cet aspect tragique de la mort avec cet aspect apparemment contradictoire. En tout cas, dans le rituel catholique, on ne meurt que pour renaître d'une autre façon. Si on a bien vécu, on meurt, on entre au paradis. Et néanmoins, il ne faut pas gommer le côté tragique de la mort.
C'est ce que je pense, et je pense qu'il y a même une certaine obscénité à essayer de le faire. Et puis, comme le dit Bernanos, personne ne fait ça sérieusement. C'est une pantomime. C'est pas personne ne croit.
C'est-à-dire
ça.
C'est-à-dire que la tristesse est partie intégrante de la foi.
Mais oui, avec j'ai assisté quand même à un certain nombre de messes d'enterrement, et tous les prêtres ne présentent pas les choses comme si ça devait être une occasion de faire la fête quand même.
Mm-hmm. Oui,
et surtout que le rituel lui-même, donc la liturgie, les chants, hein, puisque la messe qui est décrite dans le roman est chanté en polyphonie, avec des chants qu'on chante plus beaucoup maintenant, comme le Dies Irae ou le Liberame, sont des textes qui disent pas seulement l'espérance, mais la douleur, la tristesse et la peur.
Je crois que c'est au cœur de votre roman, ça. Parce que très souvent, on a l'impression, en le lisant, que c'est un roman des oppositions. Il ne faut pas gommer la tristesse, même si on croit qu'on va renaître. Et en même temps, ce qui est caché, par exemple, c'est ce qui se révèle le mieux. On voit ça de façon très très anecdotique. Par exemple, on sait bien que dans le FNLC, très souvent, les militants se cachaient avec les cagoules. C'est ceux qui se cachent qu'on reconnaît dans votre livre.
Et parce que c'est les garçons avec qui elle a grandi, et donc elle les reconnaît.
Oui, mais vous êtes romancier. Si vous, justement, il y a des scènes comme ça, c'est parce que il y en a un qui se fait reconnaître parce qu'il lui parle, parce qu'il veut être reconnu.
Il veut être reconnu.
L'autre, c'est son frère Marc Aurel, mais elle le reconnaît parce qu'il a la vieille pétoire du grand-père, etc. Donc, ceux qui se cachent, on les reconnaît.
Oui, et c'est, vous avez raison. Ça aussi, c'était pas très conscient, mais il y a un moment, il y a un militant qui est un peu amoureux d'elle, qui se fait reconnaître d'elle. Et ce qu'il cherche, c'est à se faire reconnaître en tant que celui qui est caché. Il veut pas enlever la cagoule. Il veut qu'elle sache que derrière, que ce mystérieux héros, c'est lui.
Oui, parce que
quelque chose de très puéril.
Ce seront les voilà. deux seuls à le savoir, voilà. et c'est là qu'a lieu Exactement. L'échange amoureux.
Mais là, ce que vous disiez sur les contradictions, c'est quelque chose d'assez, d'assez profondément ancré en moi. Je crois que c'est ce qui me rend sensible au mysticisme. J'avais fait un roman autour d'un dieu animal où il y avait la figure de Halage, qui est un mystique soufi que j'adore, qui fait des poèmes, et tous ces poèmes sont là-dessus, sur tenir la contradiction d'une manière qui est absolument pas dialectique. Hein, c'est que se rapprocher, c'est s'éloigner en même temps, et c'est des choses à quoi je suis assez sensible. Et peut-être, je sais pas si c'est pour des raisons esthétiques ou parce que je crois qu'il y a là-dedans quelque chose de non seulement beau mais particulièrement pertinent.
Et alors, à votre avis, Jérôme Ferrari, la fiction, le roman, c'est un bon moyen de faire passer ça, cette, je dirais pas cette obsession, mais ce problème qui est lourd sur votre dos.
D'une manière générale, je trouve que une des supériorités du roman, enfin pas une supériorité parce que je veux pas faire de hiérarchie, mais enfin ce que peut faire un roman très bien et même ce qu'il peut faire le mieux, c'est de présenter la singularité concrète et des contradictions irrésolues. Si on est dans un discours théorique, la logique ne permet pas ça. Mais un récit, une narration...
C'est le philosophe qui parle, oui. Là, je vois bien. Bon. Vous êtes prof de philo, dans la vie. Vous êtes romancier dans la vie aussi, mais enfin, votre métier, c'est d'être professeur de philosophie.
Mais pas philosophe, professeur de philosophie. Ah, j'ai jamais rien produit. J'ai jamais produit le moindre texte en philosophie. Donc,
mais vous avez étudié la philosophie, vous avez passé des concours difficiles, et maintenant, vous essayez de faire passer ce que vous avez appris.
J'adore la philosophie. Mais cette saisie immédiate de la singularité, la manière de pouvoir poser un problème sans donner les moyens de le résoudre, c'est notamment le problème de la représentation, auquel Antonia donne une solution désespérée mais qui est pas la mienne, mais que je comprends. Mais ça, c'est, je trouve qu'un roman fait très bien ça. Et je m'étais essayé à faire ça sur un plan un peu plus théorique, pas philosophique, hein, mais j'avais fait avec Olivier Roé un texte sur le reportage de Gaston Chéreau en Libye, qui était un texte d'analyse.
Et qui date donc du début du XXe siècle, ce reportage?
De 1911. C'est la guerre italo-turque, c'est 1900. Et Chéreau est allé là-bas d'octobre 1911 à janvier-février 1912, je crois.
Alors, ce recours à la fiction, est-ce que c'est un contrepoint à votre pensée philosophique, puisque même si vous n'êtes pas philosophe, vous pensez la philosophie par nécessité et par métier, ou bien est-ce que ça en fait partie?
Ah non, c'est pas un contrepoint parce que je vis pas du tout comme ça. Hein. Je ne me sens pas du tout scindé. Je me suis jamais senti scindé, et je me sens d'autant moins scindé que c'est Deleuze disait ça très justement, que la philosophie c'est très très bien, mais ça n'a pas le monopole de la pensée, la philosophie. Il y a de la pensée en littérature, il y a de la pensée en science, il y a de la pensée dans tout un tas d'activités, en peinture, en musique, enfin dans tout un tas d'activités. D'activité humaine. Ouais. Et spécialement, on peut dire qu'il y a une certaine porosité entre la littérature et la philosophie. Comme ça, on peut pas nier que les grands textes littéraires donnent à penser philosophiquement. Moi, je me sers très souvent de grands textes littéraires en cours.
Alors, en lisant votre livre, j'ai trouvé que vous étiez un peu l'inverse de Brecht, par exemple. Brecht qui, dans un certain nombre de pièces, met en scène deux situations. Dans Arthur Oui, par exemple, la situation en Allemagne et les bandits de Chicago, qui existent tous les deux. Et en croisant ça, ça permet de comprendre une situation historique. En lisant votre livre, j'avais l'impression que vous aussi, vous croisiez deux situations. Par exemple, la situation en Corse et la situation pendant la guerre de Yougoslavie à la fin des années 80. Mais que ce croisement, au lieu de faire comprendre, ça montrait au lecteur qu'il ne comprenait pas.
C'est aussi assez juste. J'en pensais dans mon roman précédent, dans Le Principe, il y a tout un passage sur le fait de croire comprendre et puis en fait ne rien comprendre du tout. Avec la physique quantique, c'est une expérience qu'on fait assez souvent. Et là, c'est un peu ça. Bon, mon projet, c'était pas évidemment de faire un parallèle significatif entre les scissions nationalistes corses et la guerre en Yougoslavie. Mais il y avait quand même des points communs sur la manière dont les choses se délitent et tournent mal sans que personne arrive à dire ni quand ni pourquoi.
Eh ben merci beaucoup Jérôme Ferrari. Vous venez d'avoir, et je vous félicite, le prix du journal Le Monde, le prix littéraire du Monde, pour ce roman À son image, qui est paru chez Actes Sud et que je recommande à tous les auditeurs de La Danse des Mots, qui elle-même est une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI. Véronique Durand, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.